Bonjour, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau grand oral AEF Info FNEJ, le podcast qui interroge les dirigeants de l'enseignement supérieur de gestion. Je suis Sarah Pieuvesan, journaliste AEF Info, et Jérôme Cabi, délégué général de la FNEJ, est à mes côtés pour accueillir à ce micro la directrice générale de Grenoble École de Management depuis déjà 3 ans, Fouzia Bouzarda. Bonjour Fouzia.
Bonjour.
Bonjour Jérôme.
Bonjour.
Fouzia, le moins que l'on puisse dire, c'est que vous avez un parcours atypique dans le milieu des directeurs et des directrices d'écoles de management. Si nous vous avions interrogé il y a 10 ans, nous aurions eu face à nous l'adjointe à la vie économique et au commerce du maire de Lyon. Et si nous vous avions reçu il y a 5 ans, nous aurions parlé transport public avec vous, puisque vous étiez alors présidente du CITRAL, le syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise. C'est donc une femme politique que nous interviewons aujourd'hui, avocate de formation, spécialisée en droit immobilier et en droit public des affaires, des disciplines que vous avez d'ailleurs un temps enseignées à l'Université Lyon 3. Au vu d'un tel parcours, qu'est-ce qui vous a amené en 2022 à vous orienter vers une business school, en l'occurrence celle de Grenoble? Qu'est-ce qui vous a convaincu de relever ce défi-là à ce moment-là?
Alors, effectivement, quand on est venu me proposer d'intégrer Grenoble, l'école de management, c'était un peu surprenant au départ, mais pas tant que ça. La gouvernance avait envie de poser la transition et la transformation de l'école. Il voulait un profil qui soit un petit peu en capacité de dialoguer avec plusieurs mondes, qui puisse à la fois interfacer avec la gouvernance, porter un projet, une vision stratégique. Et j'avais trouvé le projet intéressant. Et surtout, ce qui m'a motivée, c'est la capacité à aligner les valeurs que je porte depuis très longtemps, puisque j'ai toujours été particulièrement mobilisée sur l'égalité en général et l'émancipation. Et donc, je trouvais que c'était une belle aventure que de porter l'engagement que j'ai eu politiquement, professionnellement, dans le cadre de l'enseignement, avec la capacité à porter ses valeurs auprès des jeunes générations et donc donner des clés de l'émancipation, du savoir, de la liberté. Voilà.
Quand on a présidé une structure comme le CITRAL, dont le budget, je crois, avoisine les 2 milliards d'euros par an, est-ce qu'on ne se sent pas un peu à l'étroit dans une structure à 75 millions d'euros ?
Moi, je pense qu'on fait de sa fonction et de son job ce qu'on veut en faire. Et donc, il y a des fonctions dans lesquelles vous êtes investi de manière différente. Les transports en commun, ce qui était fabuleux, au-delà du budget, puisque c'est des temps longs, ce qui était absolument incroyable, c'est qu'au moment où j'ai pris la présidence exécutive du CITRAL, on a eu la loi d'orientation des mobilités. Et donc, je m'y suis investi pleinement et j'ai pu participer et rédiger un nouvel article consacré au CITRAL dans la loi qui m'a permis d'en faire un établissement public local, de porter toute la transition énergétique des bus, à renouveler que des bus propres par rapport aux bus antérieurs diesel et de reposer la planification des transports. Ça, c'est passionnant. Et donc, j'aurais pu avoir une autre vision de la fonction, mais j'ai fait la vision qui correspondait aussi, moi, à mes valeurs, à mon engagement, à la manière dont je fonctionne. Et donc, pour GEM, c'est pareil. Et je n'ai pas eu une minute d'ennui, ni même de répit, depuis que je suis à la tête de cette école. Et donc, ça prouve à quel point l'investissement, il est décorrélé du montant, en fait, ou du budget de la structure. Maintenant, on est sur des temps extrêmement longs quand on fait du transport en commun. Et en même temps, on est sur de l'immédiateté. Alors qu'à la tête de l'école, on a un temps qui n'est pas immédiat, mais on a un temps où on arrive à se projeter, où on arrive à lancer des projets et à les voir se mettre en place.
Ça va plus vite, c'est plus...
Voilà, c'est-à-dire qu'on est dans une autre configuration, une autre temporalité, un autre niveau d'engagement. Mais j'ai aussi maintenant l'âge, l'expérience, la maturité pour ne faire que des choix d'envie dans les fonctions que j'occupe. Et donc, j'aime vraiment un choix d'envie et donc confirmer chaque jour sur la richesse des missions. Et donc, je suis très heureuse, surtout de pouvoir aligner l'engagement, l'investissement avec les valeurs que je porte.
Est-ce que vous faites encore de la politique? J'ai vu dans la presse locale que là, en janvier, donc c'est tout récent, vous annonciez que vous aviez formé un nouveau groupe politique de centre-gauche à la métropole de Lyon, aux côtés de David Kimmenfeld, qui est son ancien président, en vue des élections de 2026.
Alors, j'ai encore 2 mandats de conseillère municipale et de conseillère métropolitaine à la ville de Lyon, puisque ce sont les mandats que j'occupe à la suite du décès de Gérard Collomb. J'avais réfléchi, en fait, au moment où ça s'est présenté, il y a à peu près 1 an, et donc par loyauté vis-à-vis de Gérard Collomb, dont j'ai été à la fois la directrice de campagne, l'adjointe et la vice-présidente, j'ai décidé de ne pas démissionner. Après, un groupe politique, c'est, je l'ai dit entre guillemets, c'est pas une affirmation d'avenir. C'est l'occasion de s'organiser sur un mandat en cours. Donc il n'y a pas de, j'allais dire entre guillemets, de révélation ou en tout cas de décision liée à ce groupe. Par contre, c'est vrai que quand on est engagé, qu'on soit élu ou plus élu, on ne cesse jamais d'être engagé. Et donc on porte toujours un projet, une vision pour son territoire. Moi, je suis, je fais les choses à fond. Là, c'est aussi l'enjeu de transmettre quand on fait de la politique. Et donc, c'était un peu cette période-là.
Est-ce que ça veut dire que 2026 va être un moment charnière ?
C'est toujours un moment charnière, mais après, moi je suis, et je l'ai déjà dit au sein de l'école, je suis vraiment investie au niveau de l'école, et donc je sais que pour ouvrir des portes, il faut aussi savoir en fermer. C'est un cycle qui se termine, voilà.
Est-ce que vous avez des marottes, c'est-à-dire des sujets qui vous tiennent particulièrement à cœur, que vous voulez voir avancer durant votre mandat à GEM, et sur lesquels vous jugerez vous-même de votre réussite ou non à la tête de cette école à la fin de l'histoire ?
J'allais dire tout mon projet, hein, c'est la marotte au niveau de l'école. Après j'ai toujours les mêmes sujets. Donc l'école, moi, m'a beaucoup plu aussi parce que c'était une société à mission. Et on aurait pu penser que c'était un peu paradoxal de loin, en se disant une business school, société à mission, engagement de valeur. Et on voit qu'il y a une vraie cohérence et que l'engagement de l'école n'a pas commencé avec la société à mission. Et donc, ce que je veux faire, c'est pouvoir avoir de l'impact aussi. Moi, je vous l'ai dit au tout début, je suis très mobilisée sur l'émancipation, l'accès au savoir, à l'égalité.
Et vous voulez le traduire comment ?
Je veux le traduire dans la capacité, en fait, à partager l'excellence d'une école comme GEM, de ces grandes écoles-là, et que ce ne soit pas toujours une vision très élitiste.
L'ouverture sociale ?
L'ouverture sociale, l'accompagnement des femmes, la nécessité de le voir à la fois dans les programmes, mais aussi de le voir dans l'ADN de l'école. Bon, quand je suis arrivée, par exemple, j'avais un comité exécutif qui était tout sauf paritaire. Bon, l'objectif n'est pas d'éradiquer la présence masculine dans les comités exécutifs, mais néanmoins, aujourd'hui, on est quasi à plus de 75%. Ce n'est pas un choix conscient, mais en tout cas...
Plus de 75% de quoi ?
De femmes au sein du comité exécutif.
Mais c'est presque éradiqué, ça.
Non, on va rééquilibrer, ne vous inquiétez pas, on va rééquilibrer. Mais voilà, c'est aussi dans la nouvelle formation qu'on lance en matière d'executive education, GEM Power, parce que moi j'ai beaucoup travaillé sur ces sujets, et je sais que quel que soit l'environnement dans lequel on est professionnel, politique, il y a des freins, conscients ou pas conscients, et il y a une capacité d'accompagner. Et moi qui suis aujourd'hui dans un écosystème d'innovation scientifique industrielle, ce sont des ingénieurs, ce sont des scientifiques, on tombe à 30% en général. Et l'enjeu, c'est d'apporter des solutions à travers la formation, qui est à la fois, pas uniquement une formation aux compétences, mais une formation à l'appréhension des opportunités et à la capacité de les saisir. Et ça, pour moi, c'est aussi fondamental. Donc à la fois les valeurs de l'école, mais aussi la capacité de changer des choses et d'impulser, de créer des formations qui permettent d'y arriver.
Dernière question sur votre parcours et sur ce nouveau job, entre guillemets. Donc, je l'ai dit, vous êtes avocate de formation, vous n'avez donc pas étudié la gestion, vous n'avez pas non plus de doctorat et vous n'êtes pas une académique. Rien de tout cela n'est une tare, je vous rassure, mais je le souligne parce que dans l'univers de l'enseignement supérieur, il y a toujours une question de légitimité qui se pose quand un dirigeant arrive d'un autre secteur. Alors, ma question, c'est comment est-ce que vous gérez les sujets purement académiques ? Sur qui vous vous appuyez et de manière plus globale, êtes-vous une manageuse qui déléguait beaucoup ?
Alors, ça fait beaucoup de questions. La question de la légitimité, moi, on m'a toujours appris que ça ne se décrète pas et que ça se démontre. Et donc, je pense que si on pouvait avoir un doute à mon arrivée il y a 3 ans, je pense qu'aujourd'hui, avec la trajectoire de l'école, en tout cas vis-à-vis de la gouvernance et du personnel, c'est démontré. On est quand même dans une très belle dynamique trajectoire avec un retour à l'équilibre. Maintenant, mon comité exécutif, il y a de l'international, il y a de l'académique, il y a de la recherche, il y a de la finance. Est-ce que je suis meilleure que ma DAF en finance ? Non. Est-ce que je suis meilleure que mon DRH en ressources humaines ? Absolument pas. Est-ce que je vais piloter la recherche à la place de mon directeur de la recherche ? Absolument pas. Et je le dis souvent que toutes ces matières et tous ces sujets, et puis j'ai eu l'occasion de faire du transport, je n'étais pas non plus ingénieur des transports. C'est la capacité à organiser et à s'entourer efficacement de gens qui sont talentueux, qui peuvent travailler dans un vrai collectif, dans une vraie dynamique, et animer tout cela. Ça ne veut pas dire que je ne m'investis pas non plus dans chacun des champs, mais avec la confiance de mes directeurs. Et j'ai ce confort absolu d'avoir choisi l'ensemble des membres de mon COMEX. Ça faisait partie aussi du postulat de départ vis-à-vis de ma gouvernance. Et je sais que si on veut réussir, on ne réussit pas seul, on réussit quand on s'entoure de la bonne équipe au bon moment. Et puis surtout, j'ai appris depuis bien longtemps, il ne suffit pas d'être croyant, il faut aussi être pratiquant sur ces compétences-là. Et je les pratique depuis longtemps, et je crois, avec un certain succès.
Alors, parlons un peu de GEM, et en particulier du plan stratégique que vous avez annoncé pour 2030, et qui a été présenté récemment. Alors, c'est un plan très ambitieux, puisque vous prévoyez de doubler les effectifs étudiants de 6 000 à 12 000, et en particulier pour le bachelor, hein, puisqu'on est à 500% d'augmentation, 600 à 4 000, et un chiffre d'affaires qui doit passer de 75 à 180 millions d'euros. Alors, ma première question par rapport à ça, c'est, vous comptez les trouver où, ces étudiants ?
Alors, pour les 500% du bachelor, moi, je vais vous répondre, eh ben, de partir de zéro, c'est facilement pouvoir progresser de manière exponentielle. Et nous n'avions pas de bachelor à Grenoble ou dans l'Arc Alpin, quand même un secteur qui méritait d'avoir une offre d'une grande école bien construite. Et donc, l'enjeu pour nous aussi, c'est d'aller sur des segments où on peut apporter à la fois l'excellence d'une grande école, mais aussi une singularité d'approche. Et donc l'enjeu pour nous, effectivement, c'est d'investiguer ces champs et puis d'aller aussi dans la projection. C'était aussi un développement à l'international assez fort et puis aussi en matière d'executive education. Donc l'enjeu pour nous, c'est pas uniquement de se dire, bon, on va grossir indépendamment. C'était d'abord de capitaliser sur la progression des nouveaux étudiants chaque année qu'on a. Donc on a fait une progression calculée qui ne nous semblait pas non plus complètement déraisonnable, sur des segments qui vont évoluer et qui progressent, pas sur des segments qui n'évoluent pas. Et on sait que le marché de l'enseignement supérieur privé est celui qui porte le marché de l'enseignement. Et à l'intérieur du marché de l'enseignement privé, le management. Et quand on est une grande école, on aborde les choses un peu différemment. Et souvent, quand on nous reproche une ambition, moi j'assume. Alors, on m'a souvent dit, et c'est je pense un grief qu'on fait souvent, une grosse affirmation d'ambition, je pense que c'est sain d'avoir de l'ambition.
Alors, ces étudiants, si on suppose que tout se passe bien, il va falloir les loger.
Donc, oui.
Il faut une capacité immobilière qui permette d'accueillir deux fois plus d'étudiants. Donc, vous allez les mettre plutôt à Grenoble, plutôt à Paris. Vous annoncez aussi votre arrivée sur Lyon dans le cadre d'une coopération avec les Maristes ou à l'étranger dans le cadre des nouveaux campus que vous annoncez à Dubaï, en Chine ou au Canada.
Alors, un peu partout, Jérôme. Un peu partout. En fait, ce qui se passe, c'est que nous avons deux campus à Grenoble qui ne sont pas encore à pleine capacité. Et nous avons la capacité aussi de pouvoir les étendre. On a aussi un campus à Paris qui fait une très belle progression d'attractivité, puisqu'on a ouvert à 1000 étudiants. Une année après, on était à 1500 et on a une capacité à monter jusqu'à 2500 étudiants, puisqu'on avait décidé d'ouvrir un campus en propre pour nous, donc deux immeubles le long du canal de l'Ourcq dans un très bel environnement. Et l'enjeu pour nous, c'est d'adresser correctement à la fois tous les secteurs géographiques et à la fois tous les segments de programmes sur nos campus. Donc on a absolument toute capacité à accueillir nos étudiants.
Alors, venons-en maintenant un peu à la sélectivité, parce que quand on dit augmenter les effectifs, on pense tout de suite à la sélectivité, parce que ce qui caractérise les grandes écoles, c'est de sélectionner ces étudiants. Est-ce que vous pensez que vous allez arriver à maintenir un niveau de sélectivité, en particulier sur le bachelor, du fait de ces augmentations importantes ?
Absolument, parce que sur le bachelor, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a clarifié l'offre. On a un bachelor en 3 ans professionnalisant par Parcoursup, sur lequel on est plutôt en train de monter en fait, la barre cette année, par rapport à l'année dernière. Et puis, on est aussi, surtout, dans le cas de la Banque des Preuves Sésame. Donc, il n'y a aucune volonté pour nous de sacrifier le volume à la qualité de la sélection.
D'accord. Alors, une école, c'est bien sûr des étudiants, c'est bien sûr des bâtiments, mais c'est aussi des profs. Donc, vous prévoyez de passer d'ici 2030 de 150 à 250 professeurs permanents, ce qui fait là aussi une augmentation importante. Mais compte tenu de l'augmentation prévue des étudiants, ça fait une baisse du taux d'encadrement. Est-ce que vous êtes fixé une limite en termes de taux d'encadrement pour les étudiants, parce que c'est un peu le nombre d'or de notre secteur?
Oui, de ne pas le dégrader. Et dans le cadre de la vérification que j'ai faite, on a un très beau taux d'encadrement à Grenoble aujourd'hui. Et donc l'enjeu, ce n'est pas de le dégrader et d'accompagner en fait la dynamique. C'est bien d'avoir des problèmes, j'allais dire entre guillemets, et sans faux jeu de moi, de riche. C'est-à-dire grosso modo, quand on a des recrutements, une dynamique et des étudiants, on adapte. Et bien évidemment, l'enjeu, c'est de continuer à assurer. Moi, je dis à Grenoble École de Management, on a des groupes encore à taille très raisonnable, avec 40 étudiants par groupe et par professeur. Je pense que c'est un très beau taux d'encadrement aujourd'hui.
Si je peux me permettre, là, si vous doublez le nombre d'étudiants et que vous passez que de 150 à 250 profs, forcément, mathématiquement, vous dégradez le taux d'encadrement.
Oui, l'enjeu, ce sera d'accompagner, en fait, le développement. Et là, aujourd'hui, on a un plan à 5 ans, et c'est-à-dire de doubler le nombre d'enseignements si on a besoin de doubler le nombre d'enseignants.
D'enseignants, donc vous irez plus loin que 250.
Oui, là, c'est une trajectoire. Et puis, ce que je veux dire aussi, c'est que dans le cadre du développement, il n'est pas porté par le PGE, il n'est pas porté uniquement par le bachelor, il est aussi porté beaucoup, par l'international et deux, par l'executive education, qui fonctionne complètement différemment pour nous. Donc, nous, on ne dégradera jamais le taux d'encadrement, parce que, pour le coup, c'est un des fondamentaux de l'école et d'une grande école. Et puis, ça fait partie aussi du contrôle régulier qu'exerce le ministère, la CEFDG, sur l'ensemble de nos demandes de diplomation. Donc, là-dessus, il n'y a pas de sujet, en fait. Et puis, je pense que la règle qui a été établie, c'était au regard de l'executive education, où là, on a beaucoup plus de profs experts et consultants.
Alors, parlons justement un peu d'executive education, parce que vous annoncez un chiffre d'affaires annuel de 5 millions qui passerait à 30 millions. Alors, c'est vrai, quand on écoute toujours les plans stratégiques, on place beaucoup d'espoir dans toutes les écoles sur la formation continue. Et puis, souvent, ces espoirs ne sont pas complètement remplis, un peu déçus parce que c'est un marché très, très compliqué. Alors, sans nous dévoiler des recettes que vos concurrents pourraient copier, qu'est-ce qui fait que vous pensez arriver à 30 millions d'euros par an de chiffre d'affaires en formation continue chez GEM ?
D'abord, parce que je le dis souvent, c'est un enjeu public très fort d'accompagner la formation continue et donc d'accompagner en fait la lutte contre l'obsolescence à un moment où on dit que les métiers vont vite évoluer, disparaître et avec l'impact de toutes les nouvelles technologies de l'IA. Et puis on a aussi nous développé à GEM une manière assez atypique et assez plébiscitée je crois, d'expérience aussi par l'immersion. Par ce qu'on avait développé dans notre nouvelle pédagogie 60-20-20 ne vient pas de rien. On a des labs dédiés dans le campus de l'innovation, dans lequel on fait de l'executive education. On a déjà une expérience de mise en situation des managers que l'on forme, des scientifiques que l'on forme, puisqu'on forme beaucoup de scientifiques au management et au leadership et à la conduite de projet. Et puis on les fait sortir en fait aussi du campus. À la fois, on le fait beaucoup sur des chaînes de production, mais on le fait aussi beaucoup dans un environnement qui est, je crois, assez singulier et qui correspond à l'ADN de l'école, c'est-à-dire dans les montagnes, en immersion, dans le cadre de programmes dédiés. Et je pense que ça fait partie aussi de notre capacité à beaucoup plus rendre attractif, en fait, par l'expérience, la formation. Voilà.
Donc, grâce à la montagne, vous allez passer de 5 à 30 millions d'euros.
Pas que la montagne, grâce au lab. Vous savez, on a investi assez lourdement en fait sur ces technologies d'immersion, injectées maintenant avec de l'IA. Et donc, ça fait partie d'un investissement sérieux et assez conséquent pour notre école. Et je me souviens avoir fait visiter, il n'y a pas très longtemps, un très grand patron d'une boîte internationale qui, quand il a visité le campus, m'a posé la question, en disant, mais ça coûte combien à vos étudiants de venir étudier ici avec ces technologies ? Eh bien, pas plus cher que dans les grandes écoles. Et donc, c'est vraiment, je pense, un atout pour GEM. Et ça fait partie, pour nous, des investissements sur lesquels on compte accélérer dans le cadre du déploiement des labs, pas uniquement sur le campus dédié à l'innovation, mais sur l'ensemble de nos campus.
Alors, vous me tendez une belle perche, là, sur les questions de financement. Parce que votre école a traversé des difficultés financières, c'est connu, ces dernières années, avec des pertes récurrentes, 4,4 millions d'euros en 2020, 6,3 en 2021, 3,6 en 2022. Vous ne publiez plus vos comptes depuis 2022, d'ailleurs, sur Papers, m'a dit Jérôme en préparant ce podcast. Mais vous dites qu'il y a eu un dernier déficit en 2023 et que depuis 2024, vous êtes revenu à l'équilibre. Alors d'abord, comment avez-vous résorbé ces pertes ?
Alors déjà, ce n'est pas qu'on ne publie plus nos comptes, mais on a une logique de changement d'exercice social. C'est-à-dire que nous, on était adossés à l'exercice civil de la Chambre de commerce. Et nous, on fonctionne sur un calendrier académique. Et donc, pour projeter ses dépenses, c'est bien de connaître ses recettes. Et donc, l'enjeu, c'est qu'on a changé l'exercice social. Et quand vous faites ça, vous faites soit un exercice très court, mais pas très compliqué, vous faites plutôt un exercice très long. Et donc là, on a fait un exercice long de plus de 18 mois, ce qui fait que derrière, il y a un décalage. Et comme on sous-traite à notre conseil la publication, c'est juste indifféré. Maintenant, aujourd'hui, pour nous, ce qui était très important, c'était aussi de purger, à la fois de reposer les fondamentaux solides d'une bonne gestion, et puis de clôturer le passé avec le changement d'exercice social, mais aussi la capacité à solder les dettes anciennes. Et donc, nous, aujourd'hui, à l'exercice 24-25, le vrai exercice complet d'une année maintenant, calendé sur l'année académique, on a un retour à l'équilibre. Et donc, pour nous, c'était un gros travail, à la fois adossé à la croissance dynamique de nos recrutements d'étudiants, mais aussi à la gestion maîtrisée et à un pilotage beaucoup plus fin de nos coûts académiques et de notre croissance.
Vous avez fait notamment baisser le ratio masse salariale chiffre d'affaires. Il était de 70% à votre arrivée, d'après ce que j'ai lu. Vous en êtes où aujourd'hui ? Est-ce que vous voulez encore le faire baisser ?
Oh, il est très, très raisonnable par rapport à nos homologues. Il est de 65%. On est loin des 50% que je peux constater par ailleurs auprès d'autres écoles. Donc, je pense qu'on n'a pas transigé avec l'excellence. Par contre, 70%, c'était un peu, j'allais dire. Après, ce qu'il faut savoir aussi, c'était que c'était post-Covid, avec la chute aussi des étudiants internationaux. Donc là, on revient à des fondamentaux cohérents, solides. L'enjeu pour nous, c'est d'être autonome et pérenne. Et donc, pour pouvoir se projeter, j'allais dire, dans une belle ambition, encore faut-il avoir posé des fondamentaux solides. Et c'est pour ça que je trouve que c'était finalement très bienvenu, qui est ce petit temps de latence, cette réflexion de la nouvelle gouvernance, parce que ça nous permet aujourd'hui d'avoir une base très solide pour appréhender l'avenir et mettre en œuvre la belle ambition.
Alors justement, l'avenir, on parle beaucoup d'écoles en difficulté financière en ce moment. Certains dans le milieu s'attendent même à une reconfiguration du paysage des business schools parce qu'ils seraient trop fragmentés, parce qu'il y aurait trop de petits acteurs. Est-ce que GEM, qui est une école qui n'a jamais fusionné par le passé malgré plusieurs tentatives qui ont avorté, pourrait y être contrainte dans l'avenir ?
Ben justement, là, elle n'a pas besoin d'y être contrainte. C'est-à-dire que quand on a reposé les fondamentaux d'une grande école, on a l'ambition, bien sûr, de progresser et de recruter et d'apporter toujours un meilleur service. Mais on n'est pas dans une configuration où on perd de l'argent et acculé, on doit se dépêcher de fusionner ou d'ouvrir son capital. Je pense que là, ce qui se passe, c'est qu'on doit mener une réflexion sur qui on veut être et comment conserver à la fois les valeurs et l'ADN de l'école, hein, parce que c'est une école distinctive et elle entend bien le rester. Mais comment aujourd'hui être indépendante de notre gouvernance et ne pas dépendre d'un flux d'argent d'ailleurs, puisque même les CCI aujourd'hui, elles sont ponctionnées. Et donc je trouve que GEM, en ayant fait ce travail-là, a pris un temps, j'allais dire, d'avance et de sérénité sur ses fondamentaux. Et aujourd'hui, c'est qui on veut être et comment on va financer notre plan stratégique. Et je rappelle que sur les dernières années, notre investissement là, qu'on flèche à 60 millions pour le plan stratégique, on a fait 30 millions sur les trois dernières années. Donc, on est plutôt à l'aise. Voilà.
Et est-ce que votre statut actuel de ESC est adapté à votre projet, à votre devenir ? Alors, en plus, vous êtes juriste, donc... Est-ce que vous envisagez d'autres types de statuts pour le futur ? Vous avez plus ou moins laissé entendre que ESC, ce n'était pas forcément très adapté.
On n'est pas fiscalisé, mais comme on ne fait pas non plus tous des bénéfices, je ne vois pas de bénéfices mérifiques, ça vous empêche d'être éligible au crédit impôt recherche, par exemple. Ça fait partie des réflexions sur lesquelles, oui, on y réfléchit, parce que l'enjeu d'un statut, c'est qu'il soit adapté à notre situation. Et nous, on investit énormément dans la recherche. Donc pour nous, c'est un sujet sur lequel on réfléchit. Maintenant, quel est le meilleur statut ? Ça va faire partie maintenant des discussions qu'on va avoir. Est-ce qu'on va rester ESC ou pas ? À un moment, c'est un partage à la fois interne et externe avec la gouvernance.
Pas d'exclusivité à nous annoncer sur le sujet.
Non, parce que pour ça, il faudrait qu'on ait fait notre propre religion. Et je pense que sur des sujets pareils, il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps, voilà. Mais je pense qu'on a un recul suffisant.
À quel horizon vous voyez
Je pense dans l'année.
Dans l'année, 2025.
Oui, puis j'attends de voir ce qui va ressortir un peu des annonces qu'on a eues, de faire des choix, qui nous amènent d'un côté ou d'un autre. Il y a pas mal d'impacts qui peuvent surgir.
Notamment sur l'apprentissage. Je crois comprendre que l'apprentissage est très présent chez GEM. C'est quoi la part dans votre budget à peu près
à peu près 26%.
26%, et donc en fonction de ce qui va sortir de la régulation, mais enfin, comme on a un nouveau projet tous les trois mois, on ne sait pas trop. C'est quoi votre positionnement, vous, sur le fond, par rapport à l'apprentissage ?
Moi, je considère que l'apprentissage est vraiment une chance. Et je considère qu'il ne faut pas casser la machine de l'apprentissage. Maintenant, y a des ajustements budgétaires. Pour le coup, je trouve que c'est un vecteur d'ouverture sociale réel. Et je trouve que c'est une accélération d'insertion également très impactante. Nous, on a un CFA en propre. Donc pour nous, et puis au regard des programmes qu'on développe, ce n'est pas uniquement le programme Grande École où on ouvre à l'apprentissage. On a des masters spécialisés qui fonctionnent particulièrement bien et qui sont adaptés en format apprentissage depuis... un certain nombre d'années à la population déjà bien insérée.
Dernière petite réaction sur les sujets d'actu, l'agrément pour certains acteurs du privé qui a été annoncé il y a à peine 15 jours par le ministre de l'Enseignement supérieur. Comment vous réagissez ?
J'attends de voir. Moi, depuis que j'ai pris les fonctions de directrice à Grenoble École de Management, j'ai entendu plein de choses sur des projets de label, Et ça change
rien
régulièrement.
Rien qu'aboutit.
Je ne le dis pas comme ça, mais je sais que ce sont des sujets complexes. Donc, je reste à l'écoute, mais je ne vais pas suspendre, entre guillemets, toute ma stratégie ou mes choix à un agrément. J'ai bien compris les deux alternatives. À minima, bien évidemment, on sera agréé, mais je reste à l'écoute de, j'allais dire, de la clarification des statuts qui pourraient être opérés dans ce moment de réflexion aussi de l'école.
Mmh. Cher Vousilla, notre temps malheureusement est bientôt écoulé. Alors nous brûlons quand même de connaître votre conseil de lecture pour nos auditeurs. Qu'est-ce que vous lisez en ce moment ? Qu'est-ce qui vous a marqué, emballé, enthousiasmé ? Et surtout pourquoi ?
Alors moi en ce moment, alors je suis très éclectique dans les lectures, mais en ce moment je me suis refait tout le cycle de Dune, à la fois le Dune dans ses volumes rédigés par Frank Herbert il y a bien longtemps, mais aussi dans les, j'allais dire, dans les préquels et puis les suites de son fils et qui s'est inspiré en fait du monde très 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 riche de Frank Herbert et qui a rédigé des volumes, enfin que je trouve aussi particulièrement passionnant. Et je trouve que c'est très intéressant parce que ça nous renvoie aussi à des sujets qui sont d'une actualité mais criante, enfin l'homme machine, l'impact des révolutions technologiques, la capacité de l'homme à influer justement sur son savoir, à travailler sur ses propres atouts, la transmission. Alors bien sûr, et puis après ça déborde, hein, la manière dont les religions sont vécues, l'asservissement, l'énergie, la raréfaction des richesses, l'impact de l'épice qui est, j'allais dire, la monnaie du monde. Tout ça, c'est à la fois ultra philosophique, parce que c'est bourré de références à différents philosophes. C'est un univers d'une richesse assez incroyable, et en même temps, c'est criant de vérité, d'humanité et d'inhumanité. Et donc, je trouve que c'est très fort. Et puis, il y a des sujets sur l'apprentissage, la capacité à rendre l'homme plus intelligent, plus prescient, plus efficace, moins obsolescent. C'est assez incroyable. Et donc, je trouve que c'est à la fois... Ça fait partie des sagas, en tout cas moi, ça fait partie des vraiment des univers et des livres qu'on lit à 20 ans, qu'on lit à 40 ans, qu'on lit à 50 ans, et donc dont on a toujours une lecture différente. Et donc c'est un univers, moi, qui me passionne. Dès que j'ai un peu de temps à consacrer, voilà, je replonge dans Dune.
Et j'ajoute que les films sont excellents, notamment sur un plan esthétique et visuel, valent vraiment le coup, si vous les avez vus.
Oui, mais sans commune mesure avec la richesse des écrits.
Comme c'est souvent le cas. Merci beaucoup,
Fousilla
Bouzerda, de nous avoir rendu visite au Studio Module. Merci à vous, Jérôme. Et merci à tous nos auditeurs. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain avec un nouvel invité. Et d'ici là, portez-vous bien.